VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition spéciale du mercredi 6 février 2019, consacrée au traditionnel discours de l'État de l'Union prononcé hier soir par le président Donald Trump devant les deux chambres réunies du Congrès.
Tonight, I ask you to choose greatness.
Choisir la grandeur, opter pour la grandeur, a dit M. Trump, en direct de Washington. Idrissa Sédoudia, en compagnie ce matin de Timothée Donangma. Timothée, bonjour.
Bonjour Idrissa, et nous avons en notre compagnie deux invités, les professeurs Réunard Wanchekon de Princeton et Mohamed Mboch de Manhattan College.
Voilà, et nous commençons par des extraits du discours du président Donald Trump. Naturellement, il s'est vanté des réalisations de son administration depuis son arrivée à la Maison-Blanche il y a deux ans.
After 24 months of rapid progress,
après 24 mois de progrès rapide, notre économie fait l'envie du monde entier. Nos forces armées sont les plus puissantes au monde de loin. Et les États-Unis...
America is again winning
les États-Unis,
each and every day.
Une fois de plus, l'emportent au quotidien.
Members of Congress, the state of our union is strong.
Chers membres du Congrès, l'état de notre union est solide.
Un bilan économique qui parle de lui-même et qui s'est traduit par une solidité de l'état de l'union. C'est ce qu'a dit le président Donald Trump hier au Congrès. Monsieur Trump, qui a naturellement défendu son projet de construire un mur le long de la frontière avec le Mexique.
Walls go up, illegal crossings go way down.
Là où ces murs sont posés, il y a infiniment moins d'immigrants illégaux qui parviennent à passer.
Le mur qui constitue un grand sujet de désaccord entre le président Trump et la majorité démocrate à la Chambre des représentants. Monsieur Trump est revenu sur ses succès économiques, notamment dans le domaine de l'emploi concernant les femmes.
Nul n'a profité davantage de notre économie qui se porte bien que les femmes qui occupent 58% des nouveaux emplois créés au cours de l'année écoulée.
Hier également, Idrissa, le président Donald Trump a annoncé une initiative qui pourrait avoir des applications bien au-delà des États-Unis, une initiative qui permettrait d'éradiquer le VIH-Sida ici aux États-Unis.
Dans mon budget, je vais demander aux démocrates, tout comme aux républicains, de s'engager pour mettre fin à l'épidémie du VIH aux États-Unis dans les 10 années à venir. Nous avons réalisé bien des progrès déjà. Ensemble, nous l'emporterons sur le sida aux États-Unis et au-delà.
Pour une analyse de ce discours du président Trump, nous avons donc deux invités, les professeurs Leonard Wanchekon de Princeton et Mohamed Mboch de Manhattan College. Une vue d'ensemble avec le professeur Mohamed Mboch.
Je crois qu'il a essayé d'entrer son mandat dans l'histoire en ouvrant avec l'histoire et en finissant avec l'histoire. Et en présentant comme témoin, disons, de ses objectifs et symboles de ses aspirations, ce que les Américains appellent la grande génération, celle qui s'est battue durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais entre ces deux, disons, points de départ et points d'arrivée, effectivement, il a touché du doigt des éléments de son agenda et il a été partisan à certains moments. Et donc, un discours qui, finalement, je ne pense pas, va rester dans l'histoire comme étant particulièrement remarquable, sauf certainement le côté émotionnel au début et à la fin.
Et professeur Wanchekon, peut-être que c'était aussi l'objectif recherché, prononcer un discours pas trop controversé.
Oui, mais la controverse va dominer parce qu'en fait, le chapitre qui a le plus occupé de temps dans son discours, 15 à 20 minutes autour de l'immigration et en particulier autour du mur qu'il a répété plusieurs fois, alors qu'il y a des choses sur lesquelles on l'attendait. La Chine, il a prononcé ce mot une fois, infrastructure une fois. Il a parlé de healthcare, donc de la politique de santé, en particulier l'objectif d'éliminer le HIV/AIDS, mais tout de suite a branché sur la lutte contre le cancer et immédiatement sur la lutte contre le cancer, c'est l'appel au freedom, donc l'appel à la liberté. Et donc un peu une sorte de disconnect. On avait l'impression qu'il avait oublié des bouts de son discours et que peut-être quelqu'un lui disait non, non, il faut revenir en arrière pour reparler un peu de ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est un discours qui est cohérent au début et à la fin, mais qui au milieu manque de continuité et de fil directeur. Je pense que de ce point de vue-là, les journalistes ne vont pas le gâter.
Et de ça?
Oui, en fait, ce que j'ai retenu aussi, quand il a parlé de la Chine, professeur Mbodj parlait de la Chine, il a encore mis sur le tapis le fait que la Chine ne respectait pas les règles commerciales, volait la propriété intellectuelle américaine et que tout cela va changer, bien entendu. Il y a des négociations actuellement entre les Chinois et les Américains. On verra ce que ça donnera. Professeur, il a parlé aussi, n'est-ce pas, de Jérusalem. Il a parlé du groupe État islamique, des négociations actuelles avec l'Afghanistan, le retrait des États-Unis du traité, enfin, c'était pas un traité, c'était un accord signé par les grandes puissances avec l'Iran, et il a parlé aussi des sanctions draconiennes qui ont été imposées à l'Iran, et il a tenu un discours plutôt dur vis-à-vis de l'Iran, disant que voilà un pays qui crie mort à l'Amérique et qui demande l'extermination du peuple juif, enfin, parlant d'Israël. Alors donc, c'était plutôt dur à ce niveau, mais il parle en même temps aussi, si j'ai bien compris, du retrait des troupes américaines de certaines parties du monde, disant que on ne peut pas avoir des guerres interminables et qu'il est temps de revenir parce que ça a coûté excessivement cher au pays. Il a parlé de plusieurs milliers de milliards de dollars concernant certaines guerres et qu'il était temps de revenir. Il a parlé des négociations avec les forces prenantes, les parties prenantes en Afghanistan et particulièrement les talibans.
Oui, de ce point de vue-là, le discours sur le Moyen-Orient a été le plus cohérent, ancré sur l'opposition à l'Iran et la promotion de la supériorité totale des intérêts d'Israël, identifié comme étant des intérêts américains. Là, de ce point de vue-là, il a été très cohérent et donc on sent très bien que cette partie de son discours peut-être a été rédigée par son beau-fils. Du moins, c'est un peu l'impression que ça me donnait. Mais en même temps, il y a maintenant ce côté un peu dangereux où, en fait, il s'agit de promouvoir une politique dure contre l'Iran, mais en même temps de faire revenir toutes les troupes américaines de ce point de vue-là, en regardant dans les yeux le chef d'état-major qui, il y a quelques heures, a affirmé qu'il n'a jamais été consulté dans cette politique. Et il y avait là quelque chose d'un peu bizarre où un président qui a le droit et qui a la prérogative de définir la politique étrangère de son pays et en même temps, donc, ne n'identifie pas clairement comment y est arrivé. Par exemple, avec ses alliés, il a attaqué l'OTAN pour finalement dire qu'en fait, bon, maintenant, on est un peu amis, puisqu'il dépense maintenant un peu plus de 100 millions de dollars de plus. Seulement, il faut dire que le budget, 100 millions de dollars de plus, alors que le budget américain de cette année et des années à venir se trouve à plus de 700 milliards. Donc, il y a une incohérence. Comment peut-on dire que ces gens-là participent à leur protection et que c'est lui qui les a forcés à dépenser un peu plus, mais alors qu'en réalité, l'Amérique va dépenser 70 à 700 fois plus. Je ne sais plus quel est le rapport entre ces deux chiffres. Pour le cas de la santé, par exemple, il a été le champion de la baisse des prix des médicaments, mais il faut voir quels médicaments ont baissé et dans quelles conditions et qui va avoir accès à ces médicaments maintenant toutes les recherches disent qu'il y aura moins de gens qui vont avoir un accès égal et facile et pas cher à ces médicaments. Et ça va être facile à démonter. Je ne vois pas.
Oui, professeur Mbodj, nous allons demander au professeur Wanchekon de nous dire ce qu'il a retenu de ce discours, professeur Wanchekon.
Merci. En fait, je suis entièrement d'accord avec les analyses faites par les collègues. Mais en fait, je vais être un peu plus dur en disant que c'est un discours plein de contradictions. Mais c'est pas surprenant parce que c'est trompe, quoi. Tout d'abord, la situation économique est rose et dans le même temps, le marché du travail est menacé par les immigrants. On ne peut pas avoir les deux, c'est-à-dire ou bien les immigrants sont en train d'arracher du travail aux Américains et le taux du chômage est en hausse. Par conséquent, ce n'est pas le cas. Ensuite, il n'a pas parlé, par exemple, de la violence dans le pays à cause des armes, donc les violences dans les écoles, les violences dans les familles, liées au fait qu'il s'est opposé, les républicains se sont toujours opposés, au contrôle des armes.
Voilà, c'était le professeur Leonard Wanchekon de l'Université Princeton.
Le Monde aujourd'hui, édition spéciale du mercredi 6 février 2019, consacrée au traditionnel discours de l'État de l'Union, prononcé hier soir par le président Donald Trump devant les deux chambres réunies du Congrès. La réponse des démocrates a été donnée par Stacey Adams, ancienne candidate au poste de gouverneur de l'État de Géorgie.
Il y a quelques semaines à peine, je me suis joint à des bénévoles pour distribuer des repas aux travailleurs du gouvernement fédéral qui étaient victimes de l'arrêt du gouvernement. Ils n'avaient pas été payés depuis des semaines.
Stacey Abrams, donc, qui donnait la réponse des démocrates au discours de Donald Trump. Et là, elle a parlé de l'aide aux employés fédéraux qui étaient victimes du shutdown. Maintenant, la question cruciale de l'immigration.
S'ils avaient l'appui pour le faire, nous pouvons développer un plan sur l'immigration pour le 21e siècle, mais cette administration choisit de jeter des enfants en cage et de séparer les familles.
Après l'immigration, elle a aussi parlé du droit de vote, une question dont elle a été presque victime, si on peut dire, en Géorgie, lorsqu'elle se présentait contre le secrétaire d'État de cet État, qui était responsable donc du mécanisme de vote et qui en même temps contrôlait en quelque sorte le système. La défense du droit de vote.
Pour défendre les droits des électeurs. C'est le nouveau combat pour notre démocratie. Nous sommes où tous les citoyens ont leur mot à dire sur la vision que nous voulons pour notre pays.
Stacey Abrams, qui est donc l'ancienne candidate au poste de gouverneur de Géorgie et qui avait été choisie par les démocrates pour donner la réponse au président Donald Trump.
Oui, Idrissa, Madame Abrams, qui est également ancienne présidente de la Chambre des représentants de l'Assemblée de l'État de Géorgie et qui est aujourd'hui considérée comme l'une des étoiles montantes du Parti démocrate. Alors, professeur Wanchekon, que retenir du discours de Madame Abrams?
Bon, c'est vrai que le début était un peu long lorsqu'elle a commencé à parler de sa famille. Mais le contenu donc de sa réponse est vraiment très approprié. D'abord, la montée donc du racisme, la corruption, notamment les fraudes électorales dont elle a été victime, le fait que en fait la pauvreté dans le pays n'a pas vraiment diminué, et surtout la question de l'éducation. Donc l'éducation, surtout au niveau universitaire, reste extrêmement chère dans le pays. La nécessité donc de se pencher sur cette question-là. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est le fait qu'elle a évoqué la violence, quoi. Donc la violence dans les écoles, qui est une véritable crise, une véritable tragédie donc dans le pays que Monsieur Trump, le président Trump n'a pas du tout évoqué. On se concentre sur quelques actes de violence et de crimes donc des immigrants, mais en fait la situation créée donc par la prohibition des armes dans le pays est tout aussi sinon plus tragique, quoi. Voilà. Donc Camper a bien vraiment aimé sa réponse.
Professeur Mbodge?
Oui, je pense que effectivement mon collègue a touché du doigt les principaux points, a y ajouté maintenant une sorte d'opposition par rapport au discours de Trump. Trump qui, la seule fois où il mentionne l'éducation, c'est pour parler du choix, donc du libre choix, donc des accolades à charte. Et c'est la seule fois dont il a parlé donc des écoles. Il ne parle pas de l'interférence des Russes dans les élections et dans la politique américaine. Et il va même jusqu'à attaquer la justice pour dire que rien de ce qu'il veut faire ne se fera tant qu'il y aura des enquêtes judiciaires, comme s'il avait le pouvoir ou quelqu'un avait le pouvoir d'y mettre fin. Donc c'est ça qui m'attriste. Autant c'est vrai, la réponse démocrate est un peu plus précise et un peu plus ciblée par rapport à des problèmes réels, autant le discours de Trump est un peu du coq à l'âne et comme je dis, j'ai l'impression que quelquefois il est allé plus loin qu'il ne le voulait ou il a sauté des choses et il est finalement revenu, ce qui fait que je reste toujours donc sur cette impression d'incohérence à la fin.
Idrissa?
Oui, moi, il y a quelque chose. Bon, vous parlez de l'éducation et on sait aussi ce que Monsieur Bernie Sanders propose à ce niveau, ce que Hillary Clinton aussi avait proposé au niveau de la gratuité des cours ou des frais de scolarité et tout ça. Et quelque chose m'a frappé dans le discours du président. Voir le président des États-Unis parler spécifiquement des dangers du socialisme auquel il faut faire attention.
C'est vraiment le discours de l'extrême droite dans le pays, quoi. Un peu comme un retour dans les années 50 du marxisme, quoi. Le socialisme dont parle Bernie Sanders et les autres, c'est le socialisme européen, c'est-à-dire la Suède, la Finlande, où, disons, les inégalités sont réduites, l'école est accessible et l'environnement est protégé. C'est absolument rien à faire avec le système donc de Maduro ou de Chavez. Absolument, rien du tout. Donc, c'est totalement ridicule, en fait, d'essayer de peindre le socialisme, notamment celui de Mme Cortez, Rosario Cortez et de Sanders, de la nouvelle génération des démocrates, comme étant un danger pour le pays, quoi. C'est ridicule, quoi.
Professeur Mbodge, on a entendu le président Donald Trump parler de cette initiative qui sera lancée jeudi, a-t-il dit, une initiative d'autonomisation des femmes dans les pays en développement.
Oui.
Voilà. En fait, ouais. Je crois que c'est l'unique passage, je vais la mentionner, les pays en développement.
Oui, l'Afrique n'a jamais été mentionnée une seule fois. Bon, c'est pas grave, mais effectivement, tout ça, la politique étrangère des États-Unis, en dehors de ses impératifs, disons, sécuritaires, industriels, commerciaux et autres, c'est de promouvoir donc l'entrepreneuriat féminin. Aucune notion de chiffre à dépenser, ni des moyens à y arriver. Et d'ailleurs, paradoxalement, tous les observateurs voient un tout petit peu la suppression de tous ces outils, qui auraient pu servir à ça à travers l'USAID, à travers l'UCIS, etc., dans leur nouvelle version qui, fondamentalement, montre bien que c'est simplement au détour d'une phrase et il fallait trouver un moyen de parler des femmes pour pouvoir raccrocher, disons, un tout petit peu ce qu'il allait dire à propos des femmes dans ce pays où il a parlé de l'emploi des femmes et il n'a pas parlé des autres, disons, blocages dont les femmes souffrent, en particulier les violences conjugales et les mouvements d'opposition à ce genre de choses qu'il a laissé de côté. Lorsqu'il a parlé, donc, il a fait un clin d'œil à sa base en parlant de l'abortion et en attaquant l'État de New York dans sa nouvelle législation. Donc,
et la Virginie aussi.
Voilà. Voilà, et la Virginie et qu'il a accusé avec des termes extrêmement durs, et en même temps, il regardait et il veut la coopération de Schumer et autres. Il y a un discours bien écrit, mais qu'il laisse de côté parce qu'il ne peut pas ne pas dire ce qu'il pense, il ne peut pas se cacher derrière ses mots. Il veut exciter l'imagination, il veut susciter la réaction, et au prix de cela, donc, en fin de compte, comme j'ai dit, ce discours ne va pas rester dans l'histoire.
Professeur, je voudrais quand même souligner qu'il a parlé de la violence contre les femmes quand il a évoqué le problème de la caravane qui se dirige vers les États-Unis.
Voilà, les seuls dans ce pays à pratiquer la violence des femmes. Il a même parlé de 1500, détenus accusés de crimes ou de choses comme ça, ou de violence contre les femmes. 300 jeunes filles sauver donc de la traite des femmes. Moi, j'ai fait un cours le semestre dernier, donc un peu sur l'esclavage moderne. Et aux États-Unis, nous sommes en train de parler de 3 à 4 millions de femmes qui sont plus ou moins trafiquées, qui sont plus ou moins exploitées. Et là, le chiffre qu'il donne pour justifier son mur, c'est 300, le cas de 300 femmes qui ont été violentées à la frontière sud par des passeurs. Ça, c'est des choses qui vont être facilement démontées pour montrer qu'en fait, il est en train de montrer avec sa lampe torche des problèmes qui, en réalité, sont minuscules par rapport au plus grand problème que ce pays a, et la violence avec les armes, le racisme qu'il n'a absolument pas cité, sauf pour parler du racisme des nazis durant les années 40. Finalement,
et ce qui s'est passé récemment à Pittsburgh, il en a parlé aussi.
Il en a parlé, mais il en a parlé surtout pour mettre en exergue les forces de l'ordre, mais aussi pour mettre en exergue donc les rescapés de l'Holocauste, ce qui est parfaitement louable et parfaitement acceptable. Mais on s'attendait là quand même à 2 ou 3 minutes sur ce phénomène de la violence contre les minorités d'une manière générale.
Le professeur Mohamed Mbodj de Manhattan College à New York, il dit ça.
Le Monde aujourd'hui, édition spéciale du mercredi 6 février 2019, consacrée au traditionnel discours de l'État de l'Union, prononcé hier soir par le président Donald Trump. Alors Tim, nous avons entendu tous ces commentaires de nos invités. Ils étaient particulièrement durs, il faut le reconnaître, avec le président.
Tout à fait. Ils ont eu des analyses assez dures du programme, du discours du président Trump. Mais le fait est que le président Trump, comme on s'y attendait, est revenu sur son projet de mur. Il y tient. Et cette fois-ci, il a essayé encore d'apporter des éléments, des arguments à cette idée-là. Il a par exemple dit que les villes mexicaines sont en train de mettre des véhicules à la disposition des migrants pour les envoyer vers la frontière américaine et s'en débarrasser ainsi. Donc, il a vraiment souligné l'urgence de la situation.
Oui, tout en parlant de l'urgence de la situation, il n'a pas été jusqu'à annoncer la déclaration d'une urgence nationale pour pouvoir trouver les fonds nécessaires requis pour construire ce mur.
Alors, le président a laissé planer le suspense un bon bout de temps. Il a dit que c'est une option qui est à sa disposition et qu'il pouvait en faire usage s'il le voulait. Mais ce n'était pas, en tout cas, dans le cadre de ce discours sur l'État de l'Union.
Est-ce pour donner une chance aux négociations actuelles entre, démocrates et républicains au Congrès, de façon générale, au Congrès, pour aboutir à quelque chose dans les 10 prochains jours?
C'est possible. Il a dit qu'il va donner une chance à ces négociations. Et bon, il y a eu des moments où il a dit aussi que c'est une perte de temps parce que il se rend compte que les démocrates ne veulent pas lui donner l'enveloppe qu'il a demandé, à savoir 5,7 milliards milliards de dollars pour la construction de ce mur. Donc, le président Trump reste ambivalent vis-à-vis de cette situation, mais il dit toujours qu'il a cette option, disons le nucléaire, qui lui permettrait de contourner le Congrès et de se donner les moyens de construire le mur.
À suivre donc. En attendant, il a parlé d'unité, de la nécessité d'avoir l'unité entre démocrates et républicains, allant même jusqu'à dire, vous savez, quand c'est une victoire que je remporte, sous-entendu, ce n'est pas une victoire pour les républicains ni pour les démocrates, c'est une victoire pour l'Amérique. Donc il nous faut nous entendre.
C'est ça. Et il a aussi dit que, vous savez, les enquêtes, les querelles intestines, tout cela fait des ordres. Si on veut être en paix et passer des lois, les deux ne font pas bon ménage. Donc, appel du pied en direction des démocrates écoutez, mettez la pédale douce en ce qui concerne toutes
et
les...
Et aussi, en quelque sorte, dire à sa base, vous savez, ils sont prêts à passer tout leur temps à me persécuter, en quelque sorte, avec ces histoires d'ingérence russe ou de complicité avec les Russes dans l'élection présidentielle de 2016. Bon, tout ça, c'est pour détourner l'attention, tout ça, c'est pour m'avoir, ainsi de suite. Alors donc, il leur dit, laissez tomber ces trucs-là, venez. Dans quel sens?
Et en même temps, Idrissa, le président Trump comprend bien qu'il a besoin de la présidente de la Chambre, Madame Pelosi, et du leader de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer. Donc, en même temps qu'il rassure sa base, il a aussi essayé un peu de ménager ses deux adversaires-là, sachant qu'il a besoin d'eux.
Oui, mais il y a une contradiction, parce que, bon, avant ce discours... J'y faisais allusion lors de notre précédente émission. Je disais que il y a quelques jours seulement, il disait que dans une interview à je ne sais encore quel journal, il disait que Nancy Pelosi était en danger, en quelque sorte, pour le pays, à cause de son opposition au mur, une question qui lui tient à cœur. Il y a des accords à ce niveau, mais quand vous l'accusez d'être en danger pour la nation, je ne vois pas comment est-ce que ça pourrait faciliter le dialogue entre vous.
Ben c'est cela. Donc on l'a vu depuis 2 ans que le président Trump n'y va pas du dos de la cuillère quand il s'agit d'affronter ses adversaires de l'opposition.
Auparavant, avant l'élection de novembre dernier, il avait les deux chambres du Congrès. Il n'a pas pu obtenir son mur. Il dira toujours qu'il lui fallait 60 voix au niveau du Sénat pour pouvoir obtenir le vote nécessaire. Donc l'appui des démocrates, et il insistait auprès de Schumer pour ça. Bon, maintenant, il y a une autre réalité. À la Chambre des représentants, sont les démocrates qui sont au pouvoir. Et les démocrates n'entendent pas lui donner comme ça carte blanche pour un mur qu'ils estiment médiéval. Et ils trouvent qu'ils sont pour la protection de la frontière, mais qu'il faut des méthodes beaucoup plus modernes et autres. C'est ça le débat actuel. Mais lui, il tient à son mur. Il pense que c'est indispensable, que ça a marché dans le cas de pays comme Israël et autres. Et il cite très souvent le mur en Israël en disant que ça marche et que ça devrait marcher. D'autres disent que c'est une perte d'argent et de temps et que, en réalité, la drogue dont il parle, tout ce trafic passe par les points d'entrée officiels des États-Unis et qu'il faudrait mettre l'accent aussi à ce niveau pour pouvoir contrôler ce trafic illicite des drogues.
Idrissa, un dossier que le président Trump a évoqué pour se donner de bons points, c'est la Corée du Nord.
Oui, il a dit que s'il n'était pas président, on aurait probablement ou peut-être on aurait eu une guerre avec la Corée du Nord. Bon, parce qu'il pense à ce que Barack Obama lui avait dit que ce serait le dossier le plus sérieux de son administration. Bon, on l'a entendu au début faire beaucoup de bruit, menacer d'une guerre incroyable la Corée du Nord. Maintenant, il dit que c'est le grand amour entre lui et Kim Jong-un.
Voilà. C'est tout pour cette édition spéciale du Monde aujourd'hui consacrée au traditionnel discours sur l'état de l'Union prononcé hier soir par le président Donald Trump devant les deux chambres du Congrès réunies en congrès. Timothée Donangma ici à Washington, j'étais en compagnie d'Idrissa Seydou Diat.
Merci Tim, merci Anne.